France Musique. Musicopolis. Janvier 1884, Göteborg. L'organiste de la cathédrale Gustavi de Göteborg a pu sauver un peu de son temps pour ses propres compositions. Pourtant, il est certainement difficile de s'arracher à cet instrument magnifique dans l'église toute blanche et claire et à tous les services suivis par l'assemblée des fidèles. Mais enfin, son trio en sol mineur est terminé. L'organiste de la cathédrale Gustavi de Göteborg est en poste depuis mai 1867, presque 17 ans. Un poste important, sachant que Göteborg est la deuxième ville de Suède après la capitale Stockholm. C'est pourquoi il y avait une grande concurrence pour obtenir ce poste. 8 candidats se présentaient, 7 hommes et une femme. Des 8 candidats, c'est elle, Elfrida André, qui a été engagée. Elle avait fait le voyage depuis Stockholm pour concourir. Les 7 autres avaient toutes les raisons de redouter sa présence s'ils avaient déjà entendu parler d'elle dans le petit monde des organistes. Elfrida André achève donc son trio en sol mineur en janvier 1884. Elle a 42 ans et déjà un long catalogue à son actif. Elle a composé son premier trio en 1860 à 19 ans, alors qu'elle était encore élève de Ludwig Norman à l'Académie de musique de Stockholm. Puis ont suivi un quintet et un quatuor avec piano, de nombreuses pièces pour piano, dont une grande sonate, 2 symphonies, des sonates et romances pour violon et piano, des pièces pour orgue, des mélodies et une grande ballade pour soliste, chœur et orchestre, Snöfrid. Toutes ces œuvres ne sont pas jouées ou éditées, mais elle dépense beaucoup d'énergie pour faire connaître sa musique. L'énergie et la détermination, voilà deux mots qui pourraient caractériser la personne et la carrière d'Elfrida André. Femme et compositrice au XIXe siècle dans un pays scandinave un peu en retrait des grandes capitales culturelles du moment, elle a dû batailler pour gagner des droits que nul n'avait jamais songé à accorder aux femmes. Le plus grand soutien d'Elfrida André durant toute sa jeunesse a été celui de son père. Celui-ci a installé son cabinet de médecin en 1832 à Visby, une petite ville de 4500 habitants dans l'île de Gotland, en plein milieu de la Baltique, à quelques 100 km des côtes de la Suède. Le docteur André, musicien amateur, est très progressiste et il va faire en sorte de donner à ses filles la meilleure éducation possible. D'abord à Frédérica, l'aînée, qui deviendra une grande chanteuse, puis à Elfrida, future compositrice et pionnière dans un certain nombre de domaines. Le père d'Elfrida André lui enseigne lui-même le chant, le piano, l'harmonie et l'accompagnement. Elle apprend également la harpe. Pour l'orgue, elle se tourne vers le titulaire de la tribune de la cathédrale de Visby, qui est aussi le directeur de la société de musique de la ville. La jeune fille a très tôt l'occasion de se produire comme pianiste et chanteuse dans les salons de la société. Mais son père réalise assez tôt que ses dons ne pourront pas s'épanouir dans cette petite ville insulaire et qu'il faut qu'elle aille étudier à Stockholm. Elle a 14 ans lorsque la famille déménage pour s'installer dans la capitale. En tant que femme, elle n'est pas autorisée à s'inscrire dans la classe d'orgue de l'Académie de musique. Mais le professeur de l'institution, après l'avoir entendue, accepte de lui donner des leçons privées deux fois par semaine. Et à 16 ans, elle va obtenir le diplôme d'organiste. Elle est la première femme en Suède. À 16 ans, Elfrida André est trop jeune pour chercher du travail comme organiste. Elle va donc patienter en suivant des cours de chant, en accompagnant la classe de son professeur et en étudiant la composition avec Ludwig Norman, considéré comme l'un des plus importants symphonistes suédois. Et en tant que chef d'orchestre, il est également un grand promoteur des œuvres de Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn et des Scandinaves Gade et Berwald. Elfrida passe avec succès ses examens et à 20 ans, elle cherche du travail comme organiste. Elle doit patienter. Thank you. professeur d'orgue d'Elfrida André voudrait bien la prendre comme assistante dans son église de Stockholm. Mais voilà que son engagement se révèle impossible. D'une part, le clergé s'y oppose, et d'autre part, une loi suédoise interdit justement d'employer des femmes comme organistes d'église. Interdiction justifiée dans la loi par la phrase de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Il se trouve qu'Elfrida André a obtenu son diplôme et qu'elle considère que la Suède pourrait bien se moderniser, sachant que dans d'autres pays, comme la France ou l'Angleterre, les femmes ont accès aux tribunes depuis longtemps. Avec son père, grand défenseur de l'émancipation des femmes, elle va donc militer pour que ce droit soit accordé aux Suédoises et lancer un débat dans les journaux. Elle va même écrire au roi. Finalement, son acharnement va payer puisqu'un amendement sera apporté à cette loi autorisant les jeunes femmes célibataires de plus de 25 ans à devenir organistes professionnelles. Même si, à 20 ans tout juste, Elfrida André n'a pas l'âge théorique requis pour exercer sa profession d'organiste, elle va tenir des postes dans plusieurs églises ou temples de Stockholm, jusqu'à ce qu'une audition soit organisée à Göteborg pour la tribune de la cathédrale Gustavi et qu'elle aille s'installer dans cette ville à 500 km de la capitale. Elle a alors 26 ans. Elle va devenir l'une des plus célèbres organistes du pays, on se presse à ses concerts et elle va être élue à l'Académie de Suède en 1879.
Thank you.
Les occupations d'Elfrida André sont nombreuses à Göteborg. D'abord à la cathédrale, elle doit bien sûr assurer les services. Mais elle doit aussi superviser le recrutement et la formation des organistes et cantors de toutes les églises luthériennes de la région. Elle remplit d'ailleurs elle-même à la cathédrale le rôle de cantor, qui consiste à choisir le répertoire du chœur, le faire répéter, le faire chanter. Elle donne également des leçons et bientôt, elle aura formé à peu près tous les organistes de la Suède occidentale. Malgré les contraintes importantes de son poste d'organiste de la cathédrale de Göteborg, Elfrida André ne laisse pas de côté son activité de concertiste. Elle se produit non seulement à Göteborg, mais parfois aussi à Stockholm et même à l'étranger. Elle aura ainsi l'occasion de se faire entendre à Copenhague, où elle convaincra finalement Niels Gad qu'une femme peut jouer de l'orgue. Elle prend aussi quelques leçons d'orchestration avec lui, étant autodidacte dans ce domaine. Elle donnera quelques concerts à Londres, et elle se rendra également à Berlin et à Leipzig, où sa sœur a fait ses études de chant au conservatoire. Là, elle a une immense déception. On lui refuse de jouer sur l'orgue de Saint-Thomas, celui de Jean-Sébastien Bach. Il serait inconvenant pour une femme de se tenir à la tribune, seule avec un chœur d'homme. Elle pourra finalement venir à bout des oppositions et apprécier les qualités de l'instrument. On mesure le degré d'énergie déployé par Elfrida André en constatant que malgré toutes ses activités d'organiste, de cantor, d'organisatrice de la vie musicale de Göteborg, son catalogue comporte pas moins d'une centaine d'œuvres. Thank you. Elfrida André a été une véritable féministe, luttant pour les droits des Suédoises. Non seulement elle leur a permis de devenir organiste professionnelle, mais elle a également été à l'origine d'une autre loi qui leur permettait d'accéder au poste de télégraphiste, métier qu'elle a elle-même appris. Néanmoins, tous ses efforts pour faire jouer sa musique, qui ont plus ou moins payé de son vivant, ont été réduits à néant après sa mort. Ce qui est le cas pour de nombreux compositeurs, bien sûr, et pas seulement pour les femmes. Depuis les années 80, ses œuvres ont été redécouvertes et enregistrées, particulièrement sa musique de chambre. Le final Allegro Risoluto du trio numéro 2 d'Elfrida André. Lucia Negro, piano, Bernd Liesel, violon et Ola Carlson, violoncelle. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dozolm pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Benjamin Vignal pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.